Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix et Livre, une émission dédiée au grand Jean de La Fontaine. Aujourd'hui, il est né il y a 400 ans, 1621, et donc on voit arriver tout un tas de rééditions, des fables bien sûr, mais il est bien plus, sa vie aussi est un roman. Je recevrai l'une de ses biographes dans un instant, pas de roman culte cette semaine, mais 5 livres, les 5 sélectionnés du prix Europe 1 GMF que je vous présenterai. Nous visiterons une bibliothèque, bien sûr celle du patron du monde des livres, Jean Birnbaum aujourd'hui. Nous irons nous balader dans une librairie comme toujours et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman Jeunesse évidemment. Mais d'abord donc c'est l'invité, La Voix est Libre, c'est parti, premier chapitre. Et bonjour Sylvie Dodler.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de La Fontaine, envers et contre tous, à l'école des loisirs, envers en deux mots. Vous êtes également l'auteur récemment, je le signale, d'une biographie de Sophie Germain, une mathématicienne. Vous animez d'ailleurs aussi un podcast consacré aux femmes et à la science, ça s'appelle Sophie Germain Project. Et puis, incroyable, je l'ignorais, mais avant d'allumer les micros, vous m'avez dit que vous étiez passé par Europe 1 dans les années 90, vous animiez Europe Nuit, c'est
oui.
Fou.
Oui, ça m'est arrivé, donc je trouve ça très amusant d'être ici aujourd'hui.
Dans les nouveaux locaux. Bon alors, je vous ai invité pour parler de La Fontaine. On connaît ses fables, bien sûr, on va y venir, mais on connaît moins l'homme. Enfin, les historiens, les spécialistes, oui. Mais sa vie a été complètement éludée par son œuvre dans la conscience collective, alors qu'il n'a publié ses fables qu'à 47 ans. On commence par sa naissance peut-être, à Château-Thierry. Dans quel genre d'environnement naît-il? Dans la plus belle maison du coin, dites-vous dans le livre.
Eh oui. Je trouve qu'il a une enfance privilégiée parce qu'il est né dans un milieu assez aisé, à Château-Thierry, donc il y a maintenant 400 ans, puis c'était le 8 juillet 1621. Il est issu d'une lignée de marchands drapiers qui est très ambitieuse, qui a gravi les échelons de la société un par un, laborieusement. Le père a changé de statut, il a abandonné le métier, il est aujourd'hui maître des eaux et forêts, donc une charge prestigieuse qui fait de lui un notable. Et c'est vrai qu'il a acheté la plus belle maison de Château-Thierry, qui est aujourd'hui le musée Jean de la Fontaine.
On peut visiter toujours.
Ah oui, faites-le, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est magnifique.
Et puis c'est toujours fascinant, les maisons d'écrivains, on sent comme ça des sortes d'ambiance, quand on connaît bien l'écrivain, quand on l'a lu. On sent quelque chose toujours dans leur environnement.
On sent le jardin, il y a le puits aussi, on sent qu'il s'amusait, on sent que c'était un lieu d'écriture également, oui.
Alors, toujours à Château-Thierry, c'est à noter, et là je parle aux écoliers qui sont en train d'apprendre l'une des fables, comme tous les écoliers, Jean de La Fontaine n'aimait pas l'école, c'est ce que vous écrivez dans votre livre.
Oui, je le présume. En tout cas, oui, il se plaint des maîtres d'études, des maîtres de collège dans ses fables, donc on peut en déduire qu'il n'a pas trop aimé l'école, qui était assez difficile et rébarbative à l'époque, hein, puisqu'on était à 35 dans une salle, assis sur des bancs de bois, toute la journée, à faire du latin, tout pendant des heures, en fait. Hein. Donc, j'imagine que c'était assez inconfortable, bruyant et un peu ennuyeux pour Jean de La Fontaine, ça c'est sûr.
Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il est rétif à toute forme d'autorité.
Oui, c'est incroyable.
Dès l'école, mais ce sera toute sa vie, ça.
Ah oui, il est réfractaire à toutes les règles, à toute forme d'autorité et de contrainte. Ça, c'est une ligne. Il a quelques lignes directrices, comme ça, et c'en est une.
Mais réfractaire en mode roseau, plutôt. C'est-à-dire qu'il est souple,
défense
quand même.
Passive.
Voilà, défense passive. Il ne va pas non plus à la confrontation. Il n'est juste pas là, quoi, si on l'embête.
J'ai l'impression qu'il a la capacité à s'extraire, comme ça, par exemple, d'une conversation qui commence à l'ennuyer, très facilement. Et sans gêne, en plus. Il va le faire tout au long de sa vie. Ce sera une de ses marques de personnalité qui sera reprise par ses contemporains.
On va revenir tout à l'heure, mais ça lui arrive souvent, par exemple, de quitter son groupe d'amis sans dire au revoir.
Ah oui.
Simplement, il est parti.
Il est parti, il a autre chose à faire, ou ça commençait à devenir ennuyeux. Il se moque de lui, d'ailleurs, à ce sujet.
Oui, ils lui font une poésie en réponse à ses sorties, comme ça, très expéditives.
Ouais. Et puis, il se moque aussi de son goût pour le sommeil, hein, pour ses pannes. Il a souvent des pannes d'oreiller. Il aime dormir, il le revendique, d'ailleurs.
Il aime dormir parce que c'est un rêveur, au fond.
Oui, je suis d'accord. Il travaille quand il dort. Il travaille, il est poète, en dormant.
C'est un distrait.
Il y a beaucoup d'anecdotes au sujet de sa distraction. Donc, il oublie les adresses, il oublie les papiers qu'on lui confie, que son père a vraiment la mauvaise idée de lui confier lorsqu'il part à Paris, des papiers importants qu'il doit amener chez le notaire. Alors, lui, il les perd en route ou alors il oublie complètement pourquoi il est venu à Paris. Il suffit que sur son chemin, il rencontre un ami qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Je ne sais pas. Tu viens avec moi au théâtre ?» Il y va. Et il a oublié complètement sa mission. Il oublie aussi, il y avait quelque chose qui m'avait amusé. Il était parti à cheval en banlieue parisienne, enfin... ça ne s'appelait pas encore la banlieue, mais assez loin. Et sur le chemin du retour, il rate Paris quand même.
Il n'y avait pas de périph' à l'époque.
Oui. Ni Tour Eiffel, on peut lui accorder ça, mais quand même.
Quand il quitte Château-Thierry pour Paris, on le retrouve en fait au séminaire. Au départ, il veut devenir prêtre.
Ah, c'est surprenant, hein. C'est vraiment...
Mais pour une raison assez belle, c'est qu'il aime la tranquillité des églises, quoi. Il aime
être tranquille. Oui, c'est ce que j'ai imaginé, parce que c'est difficile quand même de trouver une raison. Il a une espèce de crise de foi, une vocation subite.
Il n'en parle pas dans les notes et les documents qu'on a sur lui dans les archives. Il y a pas de...
Alors, il raconte qu'en fait, sa vocation a décliné très vite. Hein, et il s'est rendu compte que justement, les contraintes ne lui convenaient pas. Il y en a beaucoup quand même chez les oratoriens. Et puis, il passait son temps à lire l'Astrée, parce que c'est son livre de chevet. Donc, ça n'avait rien à voir quand même avec un ouvrage théologique. Et puis à écrire, il commence à écrire des poèmes où il se moque de ses compagnons de prière. Donc voilà, il est poussé vers la sortie.
Et bien voilà, en fait, il commence quand même sa vocation d'écrivain à ce moment-là au séminaire en observant ses collègues, quoi.
Ouais.
Et en se moquant
surtout. En se moquant, gentiment.
Vous parlez d'Astrée, effectivement, dans votre biographie. C'est un livre qu'il lit sans arrêt et toujours le même. Il fait quelques kilomètres à pied, il va s'installer au pied d'un arbre et il lit
ce livre-là. Oui. C'est son livre préféré. Il dit qu'il va le lire jusqu'à ses 70 ans et peut-être qu'il le fera. Il lira bien d'autres choses, mais l'Astrée, c'est le roman c'est un roman quand même, c'est un best-seller aussi à l'époque. Hein. C'est un pavé, c'est un roman un petit peu à l'eau de rose et il aime ça.
Alors justement, on a évoqué rapidement, mais c'est très important pour lui, les amis. Et donc quand il arrive, donc il quitte le séminaire, qui n'était pas pour lui, il est à Paris et il commence à savoir aussi qu'il veut écrire. Et il fréquente comme ça des gens, les chevaliers de la table ronde,
oui,
qui sont des amis poètes, plus ou moins,
oui.
Ou fabulistes.
Ils sont sympathiques, hein, vous ne trouvez pas?
Ah, ils sont très sympathiques. Ouais.
En fait,
ils s'appellent comme ça parce que c'est un cabaret qui s'appelle la table ronde et c'est là où ils se retrouvent.
Ils se retrouvent et ils se baptisent les chevaliers de la table ronde. Alors, ce sont des jeunes hommes, bon vivants, hein. Ils aiment aussi les cabarets, ils boivent, ils passent des heures. Mais surtout, ils partagent un goût commun et passionné pour la littérature. Donc, ils passent des heures à discuter, à débattre de leurs auteurs préférés, Malherbe, Marot, voilà, des voitures. Et à un moment donné, bien sûr, ils se disent qu'ils ont envie d'écrire, tous. Et ce que je trouve très sympathique aussi, c'est qu'ils vont se prendre en charge, ils vont organiser des espèces d'ateliers d'écriture chez Pélisson, l'un d'entre eux, avec des exercices, avec des lectures entre eux, avec des critiques aussi bienveillantes. En fait, ils apprennent à écrire ensemble.
Oui, c'est ça. Il demande à Pélisson de donner des cours de technique, en fait, littéraire. Ils ont tous lu beaucoup. Ils savent tous qu'ils veulent être poètes ou en tout cas écrire. Mais ils ont l'humilité de dire qu'ils n'ont pas les outils pour ça. Et donc, ils s'inscrivent, enfin, ils se créent eux-mêmes une sorte de cours où ils s'aident les uns les autres à écrire.
Oui, un cours autogéré. Oui, c'est étonnant.
Étonnant, mais surtout, ce qui est le plus étonnant, c'est que La Fontaine ne devient pas tout de suite écrivain. D'abord, il va travailler. Il va reprendre la charge de son père. On en parle dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.
La voix est libre continue toujours avec Sylvie Daudelaire et son livre La Fontaine, envers et contre tout. Nous parlons de Jean de La Fontaine aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de ses amis, de son enfance, du séminaire. Il a voulu être prêtre, pas très longtemps, mais il a voulu être prêtre. Il en est sorti et a commencé sa formation d'écrivain avec ses amis en apprenant comme ça. Mais il faut bien vivre.
Oui, le temps des contraintes est arrivé. Un jour...
Là, il a quel âge, là ? Il a 25 ans ?
Il a 27 ans. Il a 27 ans. Quand, en tout cas, son père lui trouve une femme à épouser. Ou l'oblige, d'ailleurs. C'est un mariage arrangé. Voilà. Donc, il est marié avec une jeune femme qui a 14 ans. Et demi, comme le disent les biographes. Donc, on ajoute un petit peu... On ajoute 6 mois pour rendre les choses un tout petit peu plus acceptables. C'est Marie-Érica qui est bien dotée. Et puis aussi, il hérite de la charge de maître des eaux et forêts à Château-Thierry. Donc, il a des obligations professionnelles également. qui consiste à contrôler, surveiller les forêts, les campagnes, traquer les braconniers, organiser les coupes de bois, enfin beaucoup de choses finalement.
C'est une sorte de super garde-chasse.
On va dire ça. Ouais.
Et en fait, vous expliquez qu'il n'aime pas du tout ça. Enfin, il aime bien se balader dans la forêt, mais c'est tout.
D'ailleurs, il est critiqué. On trouve qu'il est un petit peu mou avec les braconniers. On trouve qu'il prélève un tout petit peu trop de bois pour son compte personnel. Enfin, voilà. Et on lui fait quelques reproches à ce sujet. Et puis surtout, c'est pas ce qui l'intéresse.
Oui, mais il est trop mou avec les braconniers parce qu'il n'aime pas embêter les gens ou parce que juste, c'est pas son affaire.
Il est chargé de les juger également. Ce n'est pas simplement les arrêter, il est chargé de les juger. Voilà, ça fait partie de ses fonctions et ses peines sont réputées légères concernant les braconniers qui sont souvent des petites gens qui survivent en braconnant.
Et alors son couple, ça ne lui plaît pas non plus du tout.
Pauvre Marie-Erika. Surtout qu'elle a l'air amoureuse de lui, la pauvre. Mais au bout de 2-3 ans, il la délaisse. Il la trompe. J'ai l'impression, même sans penser à mal, il la délaisse. Il part souvent à Paris. Ils ont un enfant tout de même, dont il ne s'occupe absolument pas, très peu. Il confie quand même l'éducation de son enfant à un de ses meilleurs amis, François Maucroix. Donc voilà, on ne va pas lui jeter la plus grosse pierre.
Mais c'est ce qui ressort toujours de votre biographie, c'est-à-dire qu'il est là sans être là. Il est dans son monde, en fait.
Il est dans son monde et il n'a aucun scrupule, je trouve, à le rejoindre. Il trouve ça normal. D'ailleurs, il va à un moment donné conseiller à sa femme de le tromper, puisqu'elle lui fait le reproche de le tromper. Et il va presque la pousser dans les bras d'un de ses soupirants. Ça ne le dérange pas, il trouve ça normal.
Alors, maître des eaux et forêts, ça l'ennuie, certes, mais le fait est qu'il se balade quand même dans la nature tous les jours, et c'est là qu'il croise, en fait, même s'il n'a pas encore du tout l'idée d'écrire des fables, parce que je rappelle qu'il les écrira à partir de 47 ans, il croise quand même des brochets, des carpes, des lapins. C'est là qu'il puise son matériau, ou c'est vous qui le suggérez?
Moi, je trouve que ça ne peut être que là, parce que je trouve que dans les fables, justement, c'est tellement les animaux sont les grenouilles qui s'enfuient, les lapins, la carpe et le brochet. C'est décrit avec tellement de justesse, c'est tellement bien peint, comme dirait Madame de Sévigné, qu'il les a vus. Et il a pu les voir, il a pu les croiser. C'est un chasseur également, donc il peut parler des chiens, il peut parler du gibier d'eau.
Alors, on n'en est pas encore aux fables.
Non,
mais
oh là.
Il a écrit quand même, et il écrit d'abord, il publie d'abord une traduction, mais c'est un désastre complet. Pouvez-vous nous raconter ça?
Alors, il traduit, alors il se lance, ça y est, il est prêt à écrire sa première pièce, qui est L'Eunuque, donc une adaptation d'une pièce de Terence. Première pièce qu'il va amener en main propre à son imprimeur à Paris. Alors, il a serré ses papiers dans un sac, il a une sacoche accrochée au sac, et il galope vers Paris. Alors, il est un petit peu peureux quand même. Il est un peu méfiant des forêts, parce qu'il y a pas mal de brigands, surtout dans les forêts de l'Est de la France. Et soudain, il sent une présence derrière lui. Quelqu'un, un cavalier qui galope à ses trousses.
Donc il accélère.
Il accélère. L'autre accélère également, se rapproche. Jean de La Fontaine a très peur, jusqu'à ce qu'il réalise qu'à côté de lui se trouve un postillon, donc quelqu'un qui est chargé d'amener le courrier de ville en ville, et qui porte une sacoche, qui arrête Jean de La Fontaine, qui lui dit « Vous avez perdu quelque chose, Jean de La Fontaine ?»« Non, pourquoi ? Cette sacoche vous appartient ?»« Non, pas du tout. » Il ouvre la sacoche, il sort des papiers. « Mais vous êtes sûr que ce n'est pas à vous ?» Non, je ne vois pas. Et alors, il commence à lire. Et bien sûr, c'est le texte.
Ah ouais, il est complètement
si précieux,
dans la lune,
ce trésor, ce texte de l'Eunuque. Et Jean La Fontaine le raconte lui-même. C'est ce qui est amusant aussi, c'est qu'il raconte ces anecdotes-là. Il raconte ces moments, ces distractions, ces anecdotes où il n'est pas à son avantage. Il a beaucoup d'autodérision, je trouve.
En fait, il emmenait le manuscrit à l'imprimeur. Il l'a égaré en chemin. Le postillon lui a ramené. Mais finalement, c'était un acte manqué, puisque la traduction, ça va être un four complet.
Oui, un four. Enfin, je crois que c'est encore pire que ça, parce que en fait, c'est passé complètement inaperçu.
Tout le monde s'en fout, quoi.
Complètement.
Ouais, c'est ce qu'il y a de pire. Autant quand on se fait assassiner, au moins, on ne passe pas inaperçu.
Voilà, voilà.
Oui, mais il passe inaperçu, mais quand même, c'est aussi, pendant cette époque-là, si je ne me trompe pas, qu'il trouve un protecteur. Et ça, c'est très, très important. Et là, pas n'importe lequel, en plus.
Alors, oui. Un peu après, il a écrit quelques petites choses aussi, mais qui ne sont pas non plus exceptionnelles. Et il a trouvé un protecteur en la personne de Nicolas Fouquet, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il est le surintendant des finances, l'homme fort du royaume à ce moment-là, qui s'est attiré à lui quand même toute une génération d'artistes, de lettrés, d'écrivains prometteurs dans son château de Saint-Mandé, pour l'instant. Et je pense que La Fontaine a été pistonné par ses amis. En fait, il a beaucoup d'amis et c'est un réseau, mine de rien. Hein. Et donc, il est embauché, il est pensionné en tant que poète de cour.
C'est-à-dire qu'il a un salaire de son mécène, Nicolas Fouquet, et en échange, il lui écrit des poèmes sur commande. Quoi.
Des poèmes de circonstance sur la personne de Nicolas Fouquet, sur les activités de Nicolas Fouquet.
Sur la construction du château de Vaulx-Vicomte.
Et sur la construction du château. Alors ça, c'est normalement le grand poème qu'il est chargé d'écrire sur le chantier du château de Vaulx, et qui va durer 3 ans. Et ça ne va pas donner grand-chose du côté de La Fontaine, puisqu'il va écrire, je crois, une préface ou deux, quelques fragments qui vont rester dans un tiroir.
Et alors, les fables, quand est-ce que ça commence? Pourquoi il commence à les écrire? Évidemment, il s'inspire d'Ésope, hein, les fables d'Ésope. Certaines sont... C'est vraiment pas copier-coller, parce que c'est dans une autre forme, mais c'est la même histoire à chaque fois. Pourquoi il se dit « je vais écrire des fables » et comment c'est perçu, comment c'est reçu?
Alors, il a écrit juste avant des contes licencieux. Il a déjà une idée, je trouve, une idée de communication, une niche. Il a trouvé une niche. Il s'agit donc des contes grivois, des contes licencieux qu'il va réécrire. Ce sont des contes traditionnels de la littérature française, grivoise. Il va les réécrire à sa manière. Il va se rendre compte, ou en tout cas, il va montrer que c'est un grand styliste, que aussi il est un excellent conteur, qu'il sait trousser une histoire. Et surtout, il va rencontrer du succès. C'est-à-dire que ça va très bien marcher. Donc, à partir de là, il va imaginer autre chose, je pense. C'est un petit peu un déclencheur. Hein. C'est écrire les fables, la réécriture des fables d'Ésope et d'autres.
Et ça marche tout de suite?
Ça marche tout de suite. C'est incroyable. C'est le best-seller, en tout cas, du XVIIe siècle, qui va être réimprimé des dizaines de fois.
Comment se fait-il que ce soit encore un best-seller aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de si moderne dans ces fables?
Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de moderne. Je les trouve ni vieillis, ni modernes. Je les trouve toujours actuelles, en fait. Je crois que c'est ça, leur modernité éternelle. C'est-à-dire qu'elles ont dû paraître modernes pour nos grands-parents. Elles seront modernes peut-être pour nos enfants, je l'espère. Mais elles sont actuelles. Elles parlent de nous. Elles continuent à parler de nous, de nos travers, de notre avarice, de notre soif de pouvoir, parfois, ou de grandeur. Elles parlent de nous,
et
de l'être humain.
Il y a l'intemporalité des animaux qui fait qu'on en fait ce qu'on veut à chaque époque, finalement.
Oui, oui.
Alors, il ne s'arrêtera pas là. Hein. Vous listez à un moment ses œuvres, 240 fables, 64 contes, 2 tragédies, 1 roman en prose et en vers, 1 idylle héroïque, 2 livres et d'opéra, 2 comédies, des fragments d'un songe, un ballet comique, 1 farce-ballet, des poèmes religieux, des discours, des épîtres, des poèmes de circonstances, des satires, des autres, des épigrammes, des madrigaux, des lettres de voyage, 1 poème scientifique. Sans parler des pièces perdues, c'est-à-dire qu'on trouvera peut-être un jour des inédits de La Fontaine.
On ne sait jamais, on l'espère.
On espère aussi. Merci beaucoup Sylvie Dodeler. La Fontaine, envers et contre tous, c'est aux éditions L'École des loisirs. Il y a aussi votre livre sur Sophie Germain, une mathématicienne, et votre podcast sur les femmes et la science, Sophie Germain Project. Merci beaucoup Sylvie Dodeler.
Merci de votre invitation.
Et je signale aussi la réédition à la Pléiade des œuvres de Jean de La Fontaine. C'est sublime. Dans un instant, non pas 1, mais 5 romans, je vous présente les sélectionnés pour le prix européen GMF. A tout de suite.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre. Exceptionnellement, pas de livre culte cette semaine, pas de lecture non plus, mais 5 romans, les 5 sélectionnés pour le prix européen GMF que voici. On commence avec Châtelet, Lila, chez Gallimard, signé Sébastien Ortiz. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui ne sait pas trop quoi faire. Il gagne sa vie en faisant la plonge, il est serveur aussi, il se débrouille. Et puis, il tombe sur une annonce pour devenir conducteur de métro. Il se dit pourquoi pas, il y va et ça lui plaît. Et donc, il conduit son métro, celui de la ligne 11 du métro parisien, entre Châtelet et Lila. Mais un jour, en manipulant un appareil électrique, il se prend une décharge. Pas grave, mais c'était un peu violent quand même. Il regagne sa cabine et là, il s'aperçoit qu'il peut entrer dans l'esprit de n'importe quel voyageur. Il entend ce qu'ils entendent, voit ce qu'ils voient, il visite leurs souvenirs, bref, il est dans leur tête. Mais ça ne marche que quand il est dans le métro. Dehors, non. Alors, bon, il est poli, hein. Il quitte la tête du passager s'il y a un souvenir trop intime, et même celui d'une mauvaise action, il fuit les ondes négatives, et voilà, on écoute avec lui, d'un terminus à l'autre, on s'intéresse aux autres, finalement, les autres que d'habitude on croise sans vraiment les regarder. Deuxième roman, Le chemin des estives de Charles Wright chez Flammarion. Rien à voir, c'est l'auteur qui raconte son parcours. C'est donc pas vraiment un roman, plutôt un récit littéraire. Comme beaucoup, il commence à en avoir marre du bruit, du monde moderne, du stress, etc. Et un jour, il a une épiphanie. Il veut devenir jésuite. Bon, il commence son noviciat, son apprentissage, et chez les jésuites, il y a un passage obligé. Faire 700 km à pied sans un sou. Il faut donc marcher toute la journée et frapper aux portes le soir pour trouver le gîte et le couvert. C'est ce qu'il fait et on rencontre avec lui tous ceux qui lui ouvrent leurs portes. Nous sommes dans le Massif Central et c'est quand même l'endroit idéal pour contempler, méditer en marchant, mais aussi donc rencontrer des gens chouettes. C'est un livre sur l'errance qui aide à se retrouver. Troisième sélectionnée, Céline Curiol pour Les Lois de l'Ascension. Alors attention, 830 pages, mais c'est normal, il faut ce qu'il faut, c'est un roman total. Ça commence à l'été 2015 et ça dure un an, quatre saisons. On suit différents personnages, différents destins donc qui se croisent, mais pas tous, pas tout le temps. Il y a Orna par exemple qui est journaliste pour un site web un peu sensationnaliste. Elle commence à s'apercevoir que ça ne correspond pas vraiment à l'idée qu'elle se faisait du journalisme. Il y a Célène aussi, prof de fac dont le couple ne marche pas très fort. Il y a un psychanalyste, le docteur Pavel, qui choisit ses patients plutôt en fonction de ce que eux pourraient lui apporter plutôt que l'inverse. Il y a un jeune homme menacé par une forme de radicalisation, des individus très différents donc, mais qui composent quand même le tableau d'une certaine société actuelle, en tout cas quelques pans. Puis ce ne sont pas des archétypes, rien n'est figé, et petit à petit, au fur et à mesure, par petites touches impressionnistes presque, le paysage social prend forme. Céline Curiol montre finalement les grands événements par les petits événements intimes. Et Céline Curiol, qui au passage quand même est l'une des disciples, si on veut, en tout cas adoubée, par le grand écrivain américain Paul Auster. Quatrième roman, celui de Jeremy Bracken, Danse avec la foudre, à l'Iconoclaste, on est en Lorraine, chez des ouvriers d'une usine qui va mal. Il y a la figuette, c'est le héros, sa fille Zoé aussi, et Moira, la mère. Elle est un peu particulière, Moira, elle a toujours été un peu border, avec un comportement un peu étrange. Elle s'en va comme ça parfois, puis elle fugue, puis elle revient. Elle disparaît quelque temps, puis bon, voilà, elle revient. Mais cette fois, ça a l'air plus grave, puisqu'elle ne revient. Et donc, Figuette se retrouve seule avec sa fille Zoé. Vous ajoutez à ça que l'usine donc va sans doute fermer, c'est pas la forme, d'autant qu'il avait promis à Zoé de l'emmener en vacances à la mer. Et là, ça va être chaud. Mais donc, c'est un roman. Vous vous doutez bien que Figuette va quand même tenter le coup, offrir de belles vacances à sa fille, retrouver Moira et éventuellement sauver son usine avec sa bande de copains. Ça fait pas mal d'exploits à accomplir. C'est donc à la fois une histoire d'amour filial aussi, un roman social et un roman sur la fierté individuelle, celle de Figuette. Mais aussi la fierté collective. Tout ça est écrit dans un style direct, sans fioritures. C'est drôle, c'est rude. Une poésie un peu bourrue, si vous voulez. Et ça donne un livre émouvant qui ne tombe pas dans le mièvre ou le pathos. Le cinquième, enfin, Les Mouches Bleues, de Jean-Michel Rioux, chez Plon. Un livre qui part d'un sondage d'avril 2019. Un sondage terrifiant, accrochez-vous. C'est en exergue du livre. 41% de la population américaine ignore ce qu'il s'est produit à Auschwitz. Et chez les 18-34 ans, ça monte à 66%. Et puis donc, le roman commence dans un train. Des hommes serrés dans une puanteur infecte qui n'ont aucune idée d'où ils vont. Vous avez, vous, bien sûr compris qu'ils partent pour les camps. Les mouches bleues du titre, ce sont les nazis, les SS qui aiment le goût de la mort comme les insectes charognards. Le roman est inspiré de l'histoire vraie d'Alexander Kulisiewicz, déporté à 21 ans au camp de Sachsenhausen. Et dans cet enfer, il trouve le moyen de faire de la musique et d'écouter celle des autres. Il survivra grâce justement à la musique et à ses co-détenus. Les autres chantent aussi et confient leurs chansons à Alexander. Hypermnésique, il est chargé de les retenir toutes, ce qu'il fera. Il écrira et jouera sur scène après tout ça les musiques des camps pour ne rien oublier. Un roman sur la solidarité et l'émergence de la beauté dans la pire des situations. Voilà, cinq romans sélectionnés donc pour le prix européen GMF et le résultat sera annoncé le 20 mai prochain et nous recevrons évidemment le lauréat dans La Voix et Livres. À suivre, visite de bibliothèque, nous partons chez le patron du monde des livres. C'est chic, non ?
La Voix et Livres, Nicolas Carreau.
La Voix et Livres continue une nouvelle page. Nous partons rendre visite à Jean Birnbaum, directeur du Monde des Livres, donc autant dire le pape de la critique littéraire. Il publie Le Courage de la Nuance au Seuil, direction sa bibliothèque. Bonjour Jean Birnbaum.
Bonjour Nicolas.
Je suis très déçu. Vous êtes quand même le directeur du Monde des Livres. Je me suis dit, je vais entrer dans un appartement où je ne pourrais pas pousser la porte tellement il y aura de livres.
Et que dalle.
Et alors bon, il y a quand même 2-3 000 volumes à peu près, là, à vue de nez.
Ouais.
Mais il y a une grande bibliothèque dans le couloir, on va y aller tout à l'heure. Et puis là, on est dans le salon, salon tout à fait classique, avec un piano droit. Une clarinette aussi, je n'avais pas vu. Et puis une bibliothèque dans le fond.
Une trottinette.
Jolie bibliothèque classique et une trottinette. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes écrémé comme ça pour pas être envahi par les livres ?
Bah, c'est vrai que moi, si je le fais pas, si j'écrème pas, je meurs, puisque moi, je reçois, je suis un peu comme vous, c'est mon métier, c'est les livres, donc je reçois des centaines ou des dizaines et des dizaines, parfois des centaines de livres par semaine, donc je suis obligé d'écrémer, sinon je ne survis pas. Et puis par ailleurs, je suis en ce moment en pleine recomposition existentielle, familiale, etc., donc j'ai des livres dispersés un peu partout, dans différents endroits, et maintenant, voilà, dans cet endroit où on est ensemble, eh ben, j'ai rassemblé, j'ai rapatrié les livres qui me sont les plus chers, ceux vers lesquels je me tourne spontanément quand j'ai besoin de me réfugier dans un texte. Donc quelque part, à la fois, oui, je comprends votre déception, mais c'est les meilleurs d'entre eux, c'est les plus précieux, c'est ceux qui me permettent de vivre.
Et malheureusement, il y a beaucoup moins de romans que d'essais.
Et oui.
Mais pourquoi, vous avez moins besoin d'avoir les romans avec vous, ou c'est parce que vous préférez les essais, tout simplement ?
Non, pas du tout. J'ai beaucoup, beaucoup de romans, mais dispersés ailleurs. Et effectivement, les livres vers lesquels, quand je suis à ma table et que je bosse, hein, et que tout d'un coup, physiquement, je ressens le besoin de me lever pour aller chercher un livre, c'est rarement un roman. C'est souvent un essai, c'est-à-dire en fait de la littérature, mais de la littérature d'idées, parce que l'essai, c'est ça. Et donc là, les livres que vous avez devant vous, dans cette petite bibliothèque, c'est des essais, c'est-à-dire que c'est vraiment des livres tels que Roland Barthes les a définis, c'est-à-dire de la littérature qui tâtonne. C'est Roland Barthes, il parlait de la recherche de température en disant, est-ce que c'est un essai, est-ce que c'est un roman, on ne sait pas trop. Des textes qui sont à la charnière des genres qui explosent ou qui dynamitent les frontières entre les genres. Et effectivement, c'est ces textes-là, c'est Roland Barthes, c'est Derrida, c'est Bernanos. Alors Bernanos, il y a des romans, là vous voyez, là, il y a l'imposture, il y a la joie, il y a des romans de Bernanos, parce que Bernanos, quelque part, dans ses romans, il y a des formules qui m'aident, qui me soutiennent, mais qui relèvent presque de l'essai. C'est des formules où, par exemple, il explore nos mauvaises pulsions, ce qu'il appelle les eaux boueuses et pourries de l'âme humaine, etc. Et donc, voilà, parfois, je vais me plonger dans un roman de Bernanos, mais globalement, effectivement, ici, c'est plutôt de la littérature d'idées.
Alors, on sous-estime, je trouve, souvent le style dans les essais, qu'on attribue plutôt au roman, mais on s'aperçoit, et je le constate en regardant votre bibliothèque de travail qui vous a servi pour écrire votre dernier livre, d'ailleurs, Barthes, Raymond Aron, Arendt, Bernanos, ce sont des essais, mais avec un style. Est-ce que c'est ce qui fait que ces essais-là restent, ou alors quand même le contenu et les idées priment ?
Mais je pense que c'est vraiment les deux, en général. C'est-à-dire que c'est l'essai tel que dans sa plus grande et sa plus belle tradition, c'est justement un texte qui tâtonne, qui essaye au sens propre du terme, et qui pour ça a besoin de concilier comme ça le fond et la forme, l'érudition et le style, et la frappe comme ça, la frappe de la langue. Tous ces auteurs que vous avez cités, c'est des gens qui sont dans cette tradition-là, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans l'émotion, et c'est parce que leur texte charrie de l'émotion et nous fait vibrer qu'ils nous permettent de penser, d'éclairer et d'élucider nos vies, quoi, très clairement. Donc c'est ça, pour moi, ces essais-là, ça relève de la littérature, mais de la littérature qui... Voilà, en tant qu'elle éclaire le monde et qu'elle relève pas forcément de la fiction.
Alors, je ne suis pas du tout nostalgique ou réactionnaire, mais c'est vrai que tous ces gens-là, c'est une génération, bon, enfin, entre les années 20, disons, et les années 60, il y avait cette volonté aussi d'écrire beau. Est-ce que ça ne s'est pas perdu un peu quand même dans les essais, hein, aujourd'hui ?
Je pense que c'est plus efficace. Je pense que c'est une vraie question. Je pense que c'est lié. Alors, il y a 1000 facteurs, sans doute liés en partie liés à ce qui se passe à l'université. C'est vrai qu'il y a une espèce de crise de cette tradition comme ça, dont Marielle Massé a parlé dans un livre qui s'appelle Le temps de l'essai, et où elle parle de Paul Valéry, de Roland Barthes, etc. Et elle montre comment, à chaque fois, c'est la rencontre d'une idée et d'un style. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une partie de la formation des universitaires, etc., hélas, qui les oblige presque à désapprendre à écrire, en tout cas à jargonner, à montrer patte blanche du point de vue académique et technique et de l'expertise. Et de fait, oui, et c'est pour ça d'ailleurs l'émergence de quelqu'un comme Patrick Boucheron ou comme Marielle Massé, que je citais à l'instant, c'est aussi ça, c'est des gens qui essayent de concilier l'érudition tout en rapatriant, en s'inscrivant dans cette grande tradition française de l'essai, c'est-à-dire de cette prose d'idées qui séduit et qui fait vibrer, qui émeut en même temps qu'elle fait penser.
Je passe mon temps à visiter des bibliothèques avec le prétexte qu'une bibliothèque dit beaucoup sur son propriétaire. Avec les romans, on en dit beaucoup, mais on va plutôt dans les émotions et l'esthétique, disons. Là, avec les essais, c'est vachement dangereux, en fait, une bibliothèque d'essais dans son salon. C'est-à-dire qu'on montre carrément ses idées politiques, pardon pour le gros mot.
Oui, enfin, en même temps, moi, justement, pour me protéger, j'ai tout redisposé. Donc, j'ai mis Bernanos, qui est plutôt classé à la droite de la droite. J'ai mis Roland Barthes ou Derrida, qui sont plutôt à gauche. Donc, j'ai tout réorganisé avant que vous arriviez pour me protéger politiquement. mais en même temps, je pense que, vous voyez, si vous ouvrez ce petit volume que vous avez de Roland Barthes, c'est la leçon de Roland Barthes au Collège de France. Bah, en fait, oui, il y a la question politique, mais il y a aussi la question névrotique, parce que si
voilà,
vous regardez,
j'allais
effectivement,
y venir. Voilà, juste on se pour montre décrire,
c'est-à-dire qu'on est à poil. C'est-à-dire, si vous ouvrez le.
C'est
ce
complètement.
Livre,
le livre a été beaucoup lu, beaucoup feuilleté. La première de couverture est en train de partir. Ouais, elle est complètement partie peau, d'ailleurs. Ouais. Et à l'intérieur, alors il y a des feuillets intercalés. Et puis c'est stabiloté, c'est-à-dire que le texte entier est stabiloté, mais en rouge, en jaune, en vert, en bleu. Est-ce qu'il y a un code couleur? Ouais. Est-ce que vous avez une névrose justement avec ça? Vous devez souligner pour retenir. Comment ça se passe?
Oui, il y a cette espèce de, il y a un code couleur avec pas seulement couleur, il y a aussi plein de petits signes, de signes un peu ésotériques, etc. Que j'ai, et c'est un code que j'ai construit depuis mes 16-17 ans. Et en fait, je pense que c'est aussi ce besoin de s'approprier physiquement. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le. Je lis en numérique, bien sûr, parce que c'est mon métier, c'est de lire des livres. Donc souvent, je vais humer, je vais lire des livres en numérique, mais je me déplace beaucoup moins facilement et je m'approprie beaucoup moins facilement un livre en numérique. Je crois que je suis pas le seul. Et là, oui, pour m'approprier, pour être dans cette espèce d'affect, d'émotion du livre, de corps à corps avec le texte qui fait qu'on s'approprie un livre et qu'on peut y revenir mille fois et qu'à chaque fois on y trouve autre chose et qu'à chaque fois il vous soutient, il vous amène à découvrir autre chose dans votre vie, à traverser une contradiction, une faille qui est la vôtre. Bah pour ça, j'ai besoin, moi, effectivement, de façon un peu laborieuse et un peu névrotique, de prendre place, quoi, de me l'approprier et de semer plein de petites choses pour aussi par efficacité. C'est-à-dire que je peux, tous ces livres-là, tels qu'ils sont soulignés, je peux tous y retrouver les choses. C'est comme des balises. Et je peux tous les relire à chaque fois en quelques minutes. Alors que c'est des livres que j'ai mis des heures et des heures à lire la première fois.
Leçon de Roland Barthes, vous nous en parlez en quelques mots?
Oui, bah alors c'est un texte magnifique. C'est
très court.
C'est sa petite leçon inaugurale au Collège de France. Il est, il dit plein de choses. Il dit que, par exemple, tout son but, c'est de faire en sorte que il craint, vous savez, pour lui, il traque en permanence le pouvoir à même la langue. Il y a même cette formule malheureuse où la langue est fasciste. Et donc, à l'intérieur de toute langue, il y a une volonté de prendre le pouvoir, il y a la velléité de prendre le pouvoir sur les autres. Et donc, lui, il dit, je veux rentrer au Collège de France, mais depuis ce poste incroyablement dominant de grand professeur au Collège de France, je voudrais inventer un mode d'enseignement qui sera comme une promenade où on se baladera tous et où en permanence il y aura des allées et des venues où personne ne pourra prendre le pouvoir et avoir la maîtrise. Et il a des formules magnifiques qui justement relèvent du rapport à la littérature, au texte et au corps. Il dit par exemple, voilà, j'ouvre cette phrase, cette page, c'est page 18, il dit « La science est grossière, la vie est subtile et c'est pour corriger cette distance que la littérature nous importe ». Donc vous voyez, c'est un essai, mais c'est un essai qui immédiatement célèbre la subtilité de la littérature et le fait qu'elle elle nous permet de combler la grossièreté d'un certain rapport au monde quand il est que scientifique ou que rationnel.
Il y a toute une petite partie de la bibliothèque qui est consacrée à Jacques Derrida. Vous avez une passion pour lui? Parce que là, vous avez quoi, les œuvres complètes?
Non, je n'ai pas les œuvres complètes, puis il y a toute une partie là, c'est peut-être un quart de ce que j'ai.
Moins de 30, là.
Voilà, mais c'est vrai que Derrida est un des auteurs que je chéris, vers lequel je me tourne régulièrement, que je retourne voir tout le temps. Vous savez, Derrida, moi, j'ai eu la chance de le fréquenter au début des années 2000, quand il y un peu avant sa mort. C'était à l'époque le philosophe français le plus lu, le plus traduit à l'étranger. Il était dans ce rapport très fort à la philosophie, mais aussi à la littérature, à la musique. Il y a aujourd'hui encore des artistes, des architectes, des musiciens, donc des danseurs qui se réclament de lui et qui disent que sa pensée, ses textes nourrissent leur art. Et moi, j'ai vécu une scène qui m'a bouleversé avec Jacques Derrida, que je raconte d'ailleurs au début de mon dernier livre, où j'avais eu la chance de l'accompagner pour une série de conférences, parce qu'il venait de publier un livre, c'était juste après le 11 septembre 2001. Et c'était un livre de dialogue avec Elisabeth Roudinesco. Et on était dans une salle immense à Montpellier, il y a une jeune femme qui est intervenue, qui devait être étudiante, qui devait avoir, je sais pas, 20 ans, 21 ans, et qui a dit « Oui, très bien, votre texte est sympathique et tout, mais bon, moi je suis engagé, je fais de la politique et tout, et votre bouquin, c'est sympathique, mais il va finir sur une vieille étagère. » Et ça a été un moment magnifique, parce que Derrida a laissé s'installer un silence. Et il a dit, vous savez, mademoiselle, je vous comprends, une vieille étagère poussiéreuse, hein, elle a dit. Et il a répondu, après ce silence, il a répondu très tendrement, avec une espèce de fermeté très douce. Il a dit, mademoiselle, je vous comprends, je vous entends, vous avez raison, le combat politique c'est très important. D'ailleurs, moi je me suis engagé aux côtés des sans-papiers, contre la peine de mort, pour les écrivains opprimés, etc. Je milite, je suis comme vous, mais je voudrais vous convaincre, mademoiselle, qu'il y a une cause politique qui est la plus urgente de toutes les causes politiques, c'est la défense des vieilles étagères poussiéreuses dont vous parlez. Voilà. Et ça, ça m'a bouleversé. Et depuis, je le lis et je retourne régulièrement à lui parce que lui aussi, un peu comme Barthes, il avait cette espèce d'exigence très tendre à l'égard de son public. Il ne se foutait pas de la gueule de son public et il savait que son public le suivait parce qu'il lui faisait confiance et qu'il avait cette confiance, c'était partagée et exigeante.
J'ai un exemplaire là de Derrida qui s'appelle « Surtout pas de journaliste ouais. !» Point d'exclamation. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais c'est très drôle. C'est une conférence qu'il avait faite qui est très intéressante. Où il s'intéresse notamment au rapport entre le journalisme et la religion. Le journalisme comme un geste qui apporte la bonne nouvelle et qui demande à ce qu'on lui fasse confiance, à ce qu'on donne foi à ces nouvelles, etc. Donc, et Derrida avait un rapport, donc le titre évidemment est un peu violent et ironique, il avait un rapport très compliqué au journalisme. Il était très méfiant à l'égard des journalistes, de la façon dont les journalistes simplifiaient ses livres, alors que lui, tout son truc, évidemment, c'était le détour. Enfin, tout le monde a rigolé, il y a eu des blagues là-dessus, on aurait pu faire un sketch des Inconnus sur les textes de Derrida, parce qu'il a cette réputation d'hermétisme et d'ésotérisme, etc. Mais c'est vrai qu'il, pas du tout, il y a des textes très très beaux et très faciles à lire, mais... Il aimait justement pour être dans la nuance et pour creuser un sujet, il aimait prendre plein de détours. Il avait ce truc qu'il appelait la politique de la diversion ou du détour, comme ça. Et donc, effectivement, les journalistes, dès qu'ils s'emparaient d'un livre de Derrida et qu'ils essayaient de le résumer un peu rapidement à son goût, eh ben, ça le mettait dans une fureur épouvantable. Donc, le surtout pas de journaliste, c'était à la fois une réflexion très belle sur le journalisme comme demande de confiance et comme religion, quelque part, et en même temps, un petit coup de canif, comme ça, dans la réputation des journalistes, et puis surtout un rappel à l'ordre, parce qu'il avait, oui, il avait un rapport à la fois amoureux et conflictuel avec la presse.
Bon, mais au-dessus des livres de journalistes, au-dessus des livres d'universitaires, il y a quand même le livre, les meilleurs livres, ce sont les romans, donc, et peut-être qu'on va en trouver dans la bibliothèque qui se trouve dans le couloir. Il y en a quelques-uns, mais je crois que ça, c'est votre compagne.
Voilà.
Il y en a même beaucoup, beaucoup. Et là, on est dans votre partie. Il y a quand même des romans. Et je vois là des Houellebecq avec des marque-pages un peu partout. Et alors là, c'est un collector. C'est Sérotonine, donc son dernier roman, mais avec le bandeau Embargo jusqu'au 27 décembre 2018. C'est un livre de journaliste, mais en fait, c'est un roman envoyé, les épreuves, en fait, envoyées aux journalistes avant parution. Et je me souviens, pour Sérotonine, c'était complètement dingue, parce que c'était vraiment embargo. C'est-à-dire que il y avait quelque chose de fébrile, quoi, quand on a reçu ce roman-là. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas publié. Quel est votre rapport d'abord aux épreuves comme ça que vous recevez au journal d'écrivains qu'on attend, quoi. Est-ce que vous vous jetez dessus?
Oui, bien sûr, on se jette dessus, mais c'est vrai que moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce de fatigue ou de sourire un peu ironique sur toute la machine comme ça que vous connaissez aussi bien que moi de marketing et de où on crée la pénurie, où on crée le désir en organisant l'embargo, qui est en partie normal parce que en fait il faut se mettre aussi à la place des éditeurs qui veulent que le livre soit lu au moment où il est en librairie, au moment où il est lisible par les lecteurs et les lectrices, et donc ils savent, ils se méfient des journalistes, eux aussi se méfient des journalistes, et ils savent que s'ils envoient les livres trop tôt, ben on va tous en parler beaucoup trop tôt au moment où le livre n'est pas en librairie, donc il y a aussi ce jeu, on peut comprendre, mais c'est vrai que toute cette espèce de cuisine comme ça, qui parfois intéresse les lecteurs de nos journaux ou des auditeurs de votre radio, etc., et qui parfois les lasse. Moi aussi me lasse un petit peu parce qu'on a même la concurrence, la petite concurrence entre les journaux, entre les médias pour être les premiers à en parler, etc.
Les Arocs avaient cassé l'embargo, je me souviens d'ailleurs.
Moi, je m'en souvenais pas. Mais c'est vrai que nous, par exemple, on le fait très rarement. Nous, au Monde, au maximum, on essaie de vraiment ne pas le faire. Bon, parfois, on est obligé parce qu'il y a effectivement ce jeu de concurrence, etc., mais globalement, on essaye de ne pas le faire. Moi, je préfère qu'on arrive une semaine après tel ou tel journal, parce qu'en plus, l'époque a changé. Aujourd'hui, les gens sont très rares à lire plusieurs journaux à la fois. Donc, cette espèce que souvent, quand ils ont lu un journal, ils lisent pas l'autre. Et l'effet de concurrence est en fait assez rare et beaucoup moins féroce qu'à une certaine époque. Donc, moi, le livre de Houellebecq, je m'étais jeté dessus. Je m'étais jeté dessus avec d'autant plus de curiosité que j'avais... eu un rapport très ambivalent et très compliqué à Soumission, qu'il avait sorti quelques années auparavant et qui avait fait beaucoup de polémiques. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé Sérotonine. C'est un livre qui m'a fait hurler de rire. Voilà, c'est un livre qui m'a fait hurler de rire. Voilà, et d'ailleurs c'est marrant parce que vous voyez, je remarque ça, pour l'instant j'ai rapporté très peu de romans ici dans ce nouvel appartement, mais il y a aussi des livres de Yasmina Reza. Mmh. Et Yasmina Reza est pour moi quelqu'un aussi dont j'aime la littérature, parce que c'est quelqu'un qui, j'avais parlé à son propos d'un rire de barrage, c'est comme on parle d'un tir de barrage, c'est quelqu'un qui a un usage du rire magnifique et qui permet, grâce au rire, fait du rire une espèce d'arme de défense contre les attaques de la vie, les attaques de la mélancolie, les attaques de la tristesse dont on est victime au quotidien. Et quelque part, je remarque que les livres que j'ai rapportés, c'est des livres de romanciers que j'aime et qui font usage de l'humour.
Voilà. Mais à la fois sous ces personnages d'écrivains et puis ces histoires d'embargo, de secrets, et puis aussi les prix littéraires de la rentrée, les Goncourt et tout ça, toute cette mascarade, quand même, si on peut avoir conscience de ce spectacle un peu factice, mais quand même ça fait vivre la littérature, non ?
Oui, et puis même c'est bien sûr c'est factice, mais enfin en même temps tout est factice, et c'est au contraire, ça fait qu'il y a cette espèce d'effervescence incroyable. On est ce pays où au moment du Goncourt, la rentrée littéraire, tous les médias parlent de livres. On va dire c'est unique au monde, et c'est ce moment où le lauréat ou la lauréate du Goncourt est invité aux 20h et où tout le monde en parle, etc. C'est vrai que on peut-être qu'il y a aussi le côté un peu blasé des journalistes qui font un peu la fine bouche et qui ricanent de toute cette cuisine, etc. Mais en même temps, il y a ce truc magnifique de la surprise. Il y a encore beaucoup de surprises, vous le savez aussi bien que moi. Et puis, il y a ce moment... oui, je suis d'accord. C'est les deux à la fois. Et c'est les deux à la fois. C'est une cuisine et une mécanique, à la fois marketing, littéraire, etc., dont on peut un peu être las, parfois. Et en même temps, c'est ce qui fait que la littérature est tellement vivante et tellement populaire aussi, à tous les sens du terme, dans notre pays. Et c'est beaucoup d'autres scènes littéraires à l'étranger nous envient ça.
On a parlé des essais, on a parlé des romans. Je viens de saisir une bonne synthèse des deux. C'est 1984 de George Orwell. Vous avez tout un tas de livres de George Orwell. Moi, je suis toujours impressionné. Je trouve ça assez beau et assez émouvant qu'on ressorte 1984. Dès qu'il y a une polémique, un truc un peu qui ressemble plus ou moins de loin à une mesure coercitive, etc. Parfois, ça n'a rien à voir avec 1984. Parfois, effectivement, c'est de bon ton de le sortir. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous ? Ça vous plaît, cette idée qu'il redevient en tête des ventes dès qu'il y a quelque chose qui se passe du point de vue politique ?
Oui, mais ça me plaît beaucoup. Moi, j'ai un chapitre entier sur lui dans mon dernier livre sur la nuance, parce que pour moi, c'est quelqu'un de très important qui a toujours réussi à se tenir sur la corde raide. C'est quelqu'un qui... 1984 est un texte où il y a tout, il y a ce dont on parlait à l'instant, la question de la franchise, la novlangue, la fameuse novlangue qui est imposée dans ce régime totalitaire, c'est une langue qui est faite pour qu'il n'y ait plus aucune franchise possible. Plus aucune franchise possible. C'est-à-dire dire les choses sur un texte comme sur la vie ou sur une politique est devenu même impossible. Donc évidemment, c'est un peu facile de toujours rabattre sur le totalitarisme, sur 84, dès qu'il y a une polémique ou une tendance autoritaire dans nos sociétés ou un débat sur Twitter qui tourne mal. Mais quand même, c'est intéressant, ça nous alerte sur le fait que Orwell, dans ce roman visionnaire, nous a prévenu quand même que dans la société, dès qu'on voit des gens qui sont prêts à vider le langage de sa substance, à le vider de son sens, dès qu'on voit des gens qui sont prêts à rier, à raturer des expressions et des mots des dictionnaires et à empêcher la possibilité même de la franchise et de la sincérité dans le rapport au texte comme dans le rapport amical ou politique, ben oui, il faut, même si on n'est pas encore dans le totalitarisme, il faut tout de suite avoir des alertes et relire 84 pour savoir où ça peut mener.
Et rien que le fait de brandir comme ça un livre, même chez des gens qui ne sont pas forcément lecteurs, ça rend heureux quand même de se dire que la littérature est une arme, quoi.
Mais
en tout cas, considérée comme telle.
Mais vous savez, c'est effectivement, là, nous, on est dans ce pays incroyable où les livres sont partout, où les livres, là, pendant le confinement, même ont en partie triomphé, et où les politiques, tous les politiques, même aujourd'hui, et même ceux qui passent pour les plus poujadeaux, les plus démagos, etc., ils ressentent tous le besoin de passer par la case livre et de publier des livres. Alors, on peut dire, là aussi, c'est de la manipulation, c'est des éléments de langage, c'est pas sincère, mais en même temps, c'est beau qu'en France, les gens considèrent qu'on ne peut pas avoir un rapport... fort à la politique, à la démocratie et séduire le plus grand nombre si on ne dit pas d'abord qu'on passe par le livre. Et Emmanuel Macron est quand même un président qui a été élu. Je me souviens d'un grand entretien qu'il avait fait dans l'Observateur avec Jérôme Garcin. Il a dit qu'il avait toujours rêvé de faire des livres, qu'il avait fait des romans qu'il n'avait pas osé publier. Il a parlé de son rapport au philosophe Paul Ricoeur. On est dans un pays où les gens, les politiques n'ont pas peur de dire qu'ils ont un rapport au livre. On imagine mal Trump commencer à parler de Paul Ricoeur pour se faire élire aux États-Unis. Et donc, oui, il y a des choses qui ne vont pas du tout en France, il y a des choses très inquiétantes, mais il y a quand même, du point de vue du rapport au livre, une tradition et une forme de rayonnement des livres dans nos vies et dans nos débats qui est quand même extrêmement réjouissante.
Hop, magnifique conclusion, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup Jean Birnbaum pour cette visite.
Merci à vous.
De retour en studio, et je rappelle le titre du dernier livre de Jean Birnbaum, Le courage de la nuance, c'est au seuil, dans un instant, plein d'autres livres. Il est l'heure des libraires. A tout de suite, nous partons à Vaucresson.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
La Voix est libre continue, il est l'heure de rendre visite à un libraire, direction Vaucresson Librairie, l'écriture avec Anne Burzynski.
Bonjour Anne Burzynski.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir. Vous avez encore aujourd'hui deux très beaux coups de cœur. Et notamment, vous avez un roman en poche de Julia Kerninon qui s'appelle Ma dévotion. C'est en poche parce qu'elle vient de sortir Live Maria à l'Iconoclaste. Enfin, elle vient, c'était il y a 3 ou 4 mois.
Oui, mais il est éternel ce livre-là. C'est toujours comme s'il venait d'arriver. Il reste dans mes gros coups de cœur de ces derniers mois. Et d'ailleurs, les clients ont été complètement emportés et fascinés par ce livre. Donc oui, moi du coup, c'était aussi un peu de là que venait ma curiosité de voir un de ses précédents livres, donc Ma dévotion, effectivement, qui est maintenant en poche, de savoir ce que ça a donné en termes d'écriture et si c'était tout aussi juste en fait que Live Maria, qui m'avait un peu scié en fait, à vrai dire. Et effectivement, c'est très différent, c'est pas du tout comparable. Ça, je pense que ça plaira pas forcément au même public, ou en tout cas que ça peut... dans tous les cas, ceux qui ont aimé Live Maria peuvent l'aimer aussi, mais pour des raisons différentes. Il ne faudra pas attendre quelque chose de copier-coller. Ma dévotion, c'est quoi? C'est les retrouvailles, en fait, 23 ans plus tard, d'un homme et d'une femme qui se sont aimés pendant des années, séparés plusieurs fois. En fait, ils ont quasiment passé leur vie à s'aimer, mais avec beaucoup d'intervalles, beaucoup de retrouvailles, beaucoup de séparations. Et là, 23 ans plus tard, quand on ne s'est pas vu, quand on ne s'est pas donné de nouvelles, qu'on se recroise dans la rue par hasard et qu'on se retrouve à faire le bilan de tout ce qu'on a vécu avant... c'est quand même assez fort. Là, pour le coup, c'est notre héroïne qui va dire « Tu sais quoi, je t'ai pas dit tout ce que tu représentais pour moi avant, j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire, j'ai mon sac à déballer, j'ai beaucoup de choses sur le cœur et donc là, je te laisse pas partir avant de te dire tout ce que j'ai à dire sur notre histoire, de tout raconter depuis le début et de tout lâcher. » Et à nouveau, on trouve cette fine psychologie de Julia Kerninon qui est bluffante en fait parce que c'est réel. Et elle nous fait des phrases, on a envie d'en souligner je sais pas combien, et on se dit, en fait, ça ressemble à la vie, quoi, elle a tout compris. Donc,
c'est toujours bon signe quand on veut souligner.
C'est toujours bon signe quand on veut souligner, ouais. Et moi, je suis très comme ça, en fait. C'est vrai qu'il y a ces fameuses phrases qu'on souligne en se disant à la fois, j'aurais voulu l'écrire, ou en tout cas, je veux pas l'oublier, ou mais c'est tellement vrai, je sais pas, un truc comme ça. Mais en tout cas, ouais, c'est une phrase qu'on veut garder quelque part et retrouver, quoi.
Vous écrivez, Anne Burzynski?
Oui.
Des romans?
Oui, alors moi je suis plus dans des textes courts. Pour l'instant, je suis plus à l'aise dans cette forme-là. Donc j'écris un recueil de textes courts, mais après, donc en gros de nouvelles, on va dire. Mais de là à assumer que c'est de la littérature ou quoi que ce soit, on verra bien. Mais...
C'est publié ?
Non, c'est pas publié. J'espère un jour, sait-on jamais. Mais en tout cas, c'est un peu un rêve, en fait, à vrai dire. Mais c'est difficile de se lancer et de dépasser ce fameux complexe de ce que j'ai à dire, c'est pas... Enfin voilà. Que l'écriture n'est pas à la hauteur, etc.
Magnifique ça, je ne savais pas. Alors Anne, deuxième livre de Alain Leninez.
Oui, alors La femme moderne selon Manet, un petit peu comme son nom l'indique, j'ai envie de dire, on va avoir certes une vision de comment comment Manet représente les femmes, mais surtout, en fait, c'est le journal fictif de Victorine Meurent, qui était en fait le modèle préféré de Manet, en tout cas au moins pendant une dizaine d'années, puisque c'était quand même la femme qui a posé pour Olympia ou pour Le déjeuner sur l'herbe. Donc je veux dire, cette femme, même son corps à la limite, est extrêmement connue. Et donc on va la suivre, elle, mais ça va être un moyen de nous montrer effectivement le Manet à la fois intime et le Manet du travail, mais aussi de croiser des illustres personnages, puisque Manet, il va boire un coup avec Baudelaire, avec Pissarro, etc. Donc c'est vraiment prendre le pouls un peu de toute cette époque. Alors évidemment, si on connaît déjà par cœur Manet, c'est pas un livre universitaire, ça va pas tout nous apprendre, mais c'est pas le principe, en fait, c'est vraiment plus de plonger dans une époque et avec un livre qui est extrêmement divertissant, qui est très joli, qui a un vrai plaisir de lecture, et en fait, c'est de réussir à se régaler avec l'art, quoi.
Merci beaucoup, Anne Burzynski. On a dit donc Alain Leninez, La femme moderne selon Manet.
C'est chez les ateliers Henri Dougier.
D'accord. Julia Carninon, Ma dévotion, vous avez adoré, c'est à la Brune en poche, en attendant donc le recueil de Anne Burzynski et ses textes courts. Merci beaucoup, Anne.
Merci pour cette confiance. À bientôt.
Europe 1.
Retour à Europe 1. Dans un instant, nous sommes rejoints par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous avez choisi un livre avec une couverture très drôle qui s'appelle « Une nuit à Insect Hotel » de Claire Schwartz.
Oui, je vous emmène dans l'univers des petites bestioles. Un soir de tempête, la famille de scarabées Boozman, ça s'invente pas, est obligée de s'arrêter à l'Insect Hotel, sauf que l'établissement est presque plein et la famille Boozman doit se contenter d'un petit trou à rats comme chambre, juste bon à loger quelques fourmis. Les scarabées se tassent, mais la petite dernière de la famille, Suzy, elle, ne veut pas finir entre les pieds de son grand-père et les ronflements de sa mère, on la comprend. Elle sort malgré les rumeurs effrayantes qui circulent dans cet hôtel.
Les rumeurs ? Mais qu'est-ce qui se passe à l'Insect Hotel ?
Eh bien, des trucs bizarres, Nicolas. Selon la rumeur, une chose aussi gluante que flippante entrait les couloirs de l'hôtel. Mais Suzy, elle n'a pas peur. Avec son livre préféré sous le bras, Alice au pays des fourmis, son doudou puceron et sa boule de bouse, en cas de petit creux, on ne sait jamais, Suzy part en quête d'une chambre digne de ce nom. Elle croise un cuistot coléoptère surexcité, une cigale en plein karaoké, un bourdon qui donne le bourdon et un congrès de coccinelle. La nuit tombe et tout d'un coup, elle tombe sur un mystérieux insecte. Mais je m'arrête là. Eh oui, c'est frustrant, je sais, mais je fais quand même pas pour raconter la fin. Les insectes de l'autrice illustratrice sont craquants, marrants. Je l'ai essayé sur des cobayes de moins d'un mètre vingt et je peux vous dire que ça fonctionne très, très bien.
Et on rappelle le titre, Une nuit à Insect Hotel, grand format, de Claire Schwartz. C'est aux éditions Les Fourmis Rouges. Merci beaucoup, Victor.
À la semaine prochaine, Nicolas.
Salut. C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Nicolas Carreau.